5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir Gérard.
Et bonsoir à tous. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Avec Jean-Michel, nous vous souhaitons une très bonne année 2016. Et disons de belles étoiles pour éclairer vos nuits, Jean-Michel.
Beaucoup d'étoiles pour éclairer les nuits, bien sûr. Et puis dans le jour, hein, que chacun ait de bonnes étoiles pour les accompagner tout au long de cette année.
Voilà, donc bonne année à tous. Cette émission est consacrée à un petit bilan de l'année 2015 qui vient de s'achever. Et notamment un bilan des lancements, toutes les fusées qui sont parties, donc certaines ont, la plupart ont réussi, mais peut-être certaines, quelques autres échecs. Je crois que c'est près de 90 lancements et près de 250 satellites qui ont été envoyés en 2015.
Oui, on sera un total de 87 lancements au 31 décembre, sauf surprise. Voilà, donc avec 253 satellites mis en orbite au-dessus de nos têtes. Alors dans cette émission, bien sûr, on rappelle toujours ce qui se passe au-dessus de nos têtes. C'est une expression que j'aime bien parce qu'il se passe plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui servent beaucoup dans notre quotidien.
Alors, on rappelle effectivement que Orion Chemin de l'Espace est proposé par des amateurs, que nous sommes du groupe Orion, qui est un groupe d'astronomes de Haute-Loire, qui observe souvent au BETS à Saint-Julien-Chapteuil. Et donc, c'est l'occasion aussi de vous inviter durant cette année 2016, peut-être à venir nous voir et découvrir les étoiles avec un œil que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire tous nos télescopes, lunettes et autres jumelles.
Tout à fait. Alors, les étoiles, bien sûr, puis les satellites qu'on va passer dans le ciel, ceux dont on va parler aujourd'hui.
Alors, dans ce bilan 2015, effectivement, il y a du quantitatif, beaucoup de lancements, beaucoup de satellites. Il y en a un très médiatique, hein, qui a marqué un petit peu l'opinion en fin décembre. C'est le lancement, finalement, le premier lancement privé d'une société privée. Enfin, c'est pas le premier lancement, mais c'est une première réussite, hein, très médiatique. Cette société s'appelle SpaceX.
SpaceX, donc société privée américaine, bon, qui est sous contrat avec la NASA, puisque la NASA sous-traite au privé, hein. Donc il y a SpaceX, il y a Sierra Nevada Corporation, Orbital Science, vous voyez, donc des sociétés qui travaillent dans le spatial et qui apportent leur concours pour la NASA.
Donc en fait, c'est un cofinancement, il y a un problème d'argent derrière cette alliance.
Oui, il y a des financements de la NASA. Donc SpaceX, depuis quelques années, a réussi donc à mettre sur orbite des satellites, à ravitailler la station spatiale et cherchait depuis longtemps à faire revenir un premier étage de fusée.
Alors là, on avait en mémoire effectivement cette navette qui partait et qui revenait de l'espace. Est-ce que on est un peu sur le même esprit, mais est-ce que c'est comparable cette fusée qui est revenue, cet étage qui est revenu?
Pas du tout, Non, ça n'a rien à voir. Bon, la navette spatiale américaine, c'était le gros oiseau, le planeur, l'avion. Le cargo, hein, donc SpaceX, donc c'est une fusée qui lance des satellites, hein, c'est comme un concurrent d'Ariane, hein, pour lancer donc des satellites privés, mais SpaceX cherche toujours à innover un petit peu, donc depuis quelques années. Alors au début, quand Monsieur Elon Musk, puisque c'est son nom, le PDG de la société, a fait fortune dans l'internet, après a revendu son site internet et s'est lancé dans le spatial, donc avec de la réussite, hein. Au début, il faisait sourire un peu les agents spatiale mondiale, et puis on le prend au sérieux aujourd'hui avec cette fusée qui lance des charges, et on va parler de cette fusée donc dont le premier étage est revenu donc la semaine dernière, hein, en décembre. Donc il y a eu des échecs, hein, des échecs parce que au cours de l'année 2015 il y a eu des tentatives, notamment on se souvient de cette tentative où on faisait revenir cet étage sur une barge en mer, et la fusée est revenue, elle est bien revenue sur la barge, mais à côté de la barge, il y a eu quand même pas mal de dégâts.
Thank you.
Elon Musk, c'est donc un investisseur privé qui a fait fortune dans l'Internet. Bon, c'est un bon retour d'ascenseur finalement, parce que l'Internet, enfin tout ce qui est télécom, doit beaucoup, bien entendu, même tout, à la conquête spatiale et aux satellites.
À la conquête spatiale apporte beaucoup à l'Internet, et notamment des satellites qui ont été lancés par cette fusée justement de SpaceX, qui a lancé des satellites pour une film qui s'appelle Orbecom, c'est pour la téléphonie. Voilà, et puis l'Internet aussi.
Alors, on a bien vu que ça n'est pas la navette. Enfin, je veux dire, ce concept de fusée, c'est privé. L'objectif, c'est effectivement peut-être de faire de l'argent. Donc, on est à la recherche du moindre coût. Est-ce que ces fusées sont... le pari, finalement, ça n'est pas effectivement de faire des fusées pas chères et fiables et efficaces.
Oui, cette fusée, donc la Falcon, avec... il y a la capsule Dragon qui ravitaille la station spatiale. Une capsule Dragon qui revient en mer, comme au temps de la conquête de la Lune. Mais bon, cette fusée Falcon, c'est un peu un concurrent d'Ariane au niveau des lancements privés. Donc, Ariane, pour l'instant, s'inquiète pas trop. C'est aussi pour ça qu'on essaye de faire Ariane 6, de faire une fusée qui lancera des charges un petit peu moins lourdes, plus compétitives, moins chères. Mais bon, ça, attendons.
On rappelle que Ariane est un lanceur de masse importante, de satellites en tout cas très importants, qu'il y a aussi sur le pas de tir de Kourou, en dehors d'Ariane, on a Soyouz.
On a Vega.
Donc en fait, ça, on rappelle pour nos éditeurs qui nous suivent depuis longtemps, effectivement, que c'est une offre très complémentaire de lanceurs. Oui. Comment se situe finalement ce lanceur Falcon par rapport à ces trois-là?
Un petit peu intermédiaire, quoi. C'est pas Vega, c'est pas Soyuz, c'est pas Ariane non plus. Et ça sera Ariane 6, si on peut faire des comparaisons. Mais bon, après, il y a des histoires de puissance, de mise en orbite sur telle hauteur, entre le géostationnaire ou l'orbite basse ou l'orbite moyenne. C'est des histoires de gros sous, on peut dire, de faire du plus rapide, moins cher.
Voilà, génération
de lanceurs.
Par contre, ça n'est pas, j'allais dire, une course à la puissance, à la masse à lancer, quoi, par exemple. Oui. Donc on pourrait s'attendre, puisqu'on parle d'Ariane 6, on pourrait s'attendre qu'Ariane 6 est encore plus gros, plus lourd que...
Non,
c'est
pas le cas. Ariane 6 sera un petit peu moins performante, on va dire, qu'Ariane 5, parce qu'Ariane 5, c'est un poids lourd, capable de lancer des charges très très lourdes dans sa coiffe et sur des orbites vraiment à toute distance.
D'accord. Donc on verra un petit peu ce qui s'apprête à lancer, mais je pense que, comme on l'a vu dans nos dernières émissions, on va vers plus de satellites moins lourds, on va dire, entre guillemets.
Oui, puisqu'on parle beaucoup de cette fusée Falcon, donc d'Elon Musk, la société SpaceX, elle a lancé donc quelques satellites, qui avaient 11 satellites dans sa coiffe. On a parlé du retour de l'État sur Terre, mais on n'a pas parlé de ce qu'elle a lancé. Elle a lancé quand même, il y avait 11 satellites de 127 kilos, 132 kilos, suivant les sources. Ouais, donc déjà, ça fait quand même du poids. Alors, ce sont des petits satellites pour la téléphonie, pour l'Internet, donc pour des sociétés américaines.
Alors, la récupération de l'étage, finalement, c'est un peu anecdotique.
Oui,
dans
ça fait
histoire.
Beaucoup parler. On imaginerait que les ingénieurs de l'espace spatial européen travaillent sur le retour du premier étage d'Ariane 6. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que on parlera pollution de l'espace, parce que tout ça, il y a beaucoup de choses qui retombent en mer. Le nombre de boosters d'Ariane 5 qui sont au fond de l'océan Atlantique, je les ai pas comptés, je sais pas si quelqu'un le sait, mais il doit y en avoir.
Donc en fait, 2015 marque quand même l'arrivée des investisseurs privés dans l'espace, de manière, avec cette réussite. Ils y étaient déjà, mais ils s'affirment.
Ils y étaient déjà, on continue.
Ça traduit quand même une certaine maîtrise technique, puisque ils réussissent à envoyer 11 satellites, donc ils existent, ils sont là, et avec eux la concurrence pour un certain nombre de lanceurs, donc ça bouscule quand même un peu tous les opérateurs de...
Ça bouscule un petit peu tout le monde, c'est le marché, puisque on va dire que toutes les puissances spatiales peuvent lancer des satellites privés. Il s'en est lancé en 2015, en 2014, en 2013, vous voyez, et ça va continuer pour 2016. Thank you.
bien, Jean-Michel, faisons maintenant un retour un peu plus global sur cette année 2015. Donc, beaucoup de lancements, beaucoup de satellites. Nous verrons ça un tout petit peu plus tard. Quel est le bilan global des lancements et des lanceurs en 2015?
Ah ben, les bilans globaux, ce sont, comme on l'a dit, 253 satellites lancés. Alors, on parle beaucoup des satellites qui sont lancés par les poids lourds, comme Ariane, comme les Protons russes ou les Soyouz, comme les longues marches chinoises. Donc, on parle beaucoup de ces gros lanceurs, mais il existe beaucoup de petits lancements de satellites qu'on en a eu parlé dans ces émissions, les TubeSat, les CubeSat. Ce sont des petits satellites qui vont être mis dans la soute d'un cargo Progress qui ravitaille la station spatiale, qui vont être mis dans la capsule Dragon de SpaceX, on en a parlé tout à l'heure, qui vont être parlés dans les cargos Sinus pour ravitailler l'ISS. Et tous ces petits satellites, ces micros, ces nanosatellites, bon, qui peuvent aller de quelques centimètres à quelques mètres, hein, c'est énorme, hein, ces lancements en orbite relativement basse, et pour des durées de vie de 5 à 10 ans.
Alors, sur les lanceurs, s'il fallait faire un podium des lanceurs, quel est le lanceur qui a le plus lancé cette année? On verra le deuxième, le troisième.
Alors, question un petit peu compliquée, parce qu'il faut voir entre les tirs russes, USA. Bon, c'est les USA, c'est le poids lourd. Hein. Les USA sont le poids lourd avec différents types de lanceurs. Donc, on ne parle pas beaucoup de la NASA, parce que bon, la NASA lance des satellites donc sur Cap Canaveral, Cap Kennedy, hein, mais sur Vandenberg aussi, là ce sont plus des satellites militaires sur la base, sur Valops, voilà. Donc ces satellites qui sont lancés en privé militaire, alors les institutionnels, on va dire, ces satellites institutionnels qui vont faire de l'observation, de la photographie, de la mesure des mers, de la fonte des glaces, de l'observation de la forêt, etc. Donc il y a les institutionnels, il y a les militaires, il y a les commerciaux.
On reviendra peut-être sur les différents satellites, les différents types de satellites et d'usages que l'on peut en faire, mais sur les lanceurs, je reviens un petit peu sur les lanceurs. Sur 2015 en tout cas, sur ces 87 lancements, est-ce que ce sont des gros lanceurs qui ont la majorité, ou est-ce que ce sont au contraire des petites fusées plus peut-être moins chères, qui lancent des choses peut-être moins massives, etc. Quel est le lanceur qui a le plus fonctionné aujourd'hui, en 2015 en tout cas?
En 2015, il y a quand même, quand on parle, c'est le Soyouz. Le Soyouz, je veux parler du Soyouz parce que c'est quand même celui qui a la capacité de lancer de l'humain. Parce qu'on peut parler des différents lanceurs de différents pays, que ce soit la Chine, le Japon, qui ont des petites fusées, l'Inde aussi qui lance, puisqu'on a eu parlé des lancements de l'Inde. Mais moi, je dirais que le Soyouz, ça serait peut-être pas le numéro 1 sur 2015, mais le numéro 1 toute catégorie confondue, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul qui est capable de lancer des êtres humains.
Donc en fait, c'est le plus fiable, c'est peut-être pas le bon mot, mais le plus polyvalent.
Il est très polyvalent, oui. Hein, c'est une fusée, on va dire. C'est l'historique de la fusée. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire. Hein, parce qu'effectivement, bon, toutes les fusées partent des V2 allemandes, on en a eu parlé, donc au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Elles sont toutes les héritières de ce lanceur, de ce missile de l'époque. Hein. Mais bon, le Soyouz, vraiment, a gardé cette tradition. Le Soyouz a évolué, hein, mais reste quand même. Il y a toute une histoire. On pourrait faire une émission sur le Soyouz, c'est excessif. Riche, et qui, comme je le rappelle,
c'est le premier, on la fera.
veut dire, ce lanceur qui lance des êtres humains aujourd'hui, qui peut lancer des êtres humains? Personne.
Alors, Ariane se situe comment par rapport à ça? Les mois derrière,
alors Ariane, c'est un poids lourd aussi. Hein. Bon, on voit, parce que quand on lance de courroux, puisqu'on lance de courroux, on lance des satellites avec Soyouz, pas des êtres humains. Hein. Ouais. Les êtres humains, c'est pour l'instant, c'est que du Kazakhstan, hein, donc de Baïkonour. Mais Ariane aurait pu lancer, effectivement, des êtres humains si les programmes avec la navette Hermès n'avaient pas été arrêtés il y a une vingtaine d'années.
Donc on peut mettre Ariane sur le podium, sur les trois,
Ariane a des capacités, Ariane 5 surtout, dans sa version ECA.
Parce que régulièrement, chaque mois, on annonce pratiquement un lancement réussi à Kourou.
Oui, par Ariane, parce qu'on lance des Galiléo. Donc on n'a pas.
Et les Américains, on en entend peu parler finalement en tant que lanceur. Et pourtant, ils doivent être extrêmement présents.
Ils sont présents. Donc, ben, j'ai pas trop en tête les noms des fusées américaines. Donc, c'est vrai que le programme spatial américain, pour l'instant, pour moi, il est quand même très très flou. On cherche à aller sur la Lune, avec la capsule Orion, aller dans l'espace, tout au moins ramener des hommes dans l'espace. On cherche à aller capturer un astéroïde. Donc, le SLS américain, ce sont des lanceurs qui sont, je veux dire, à l'étude. Il y a des lanceurs qui ont été abandonnés. La NASA a dépensé énormément d'argent sur des projets qui ont été abandonnés. Donc aujourd'hui, il y a des fusées américaines, donc je n'ai pas trop en tête là.
Dernier mot sur les autres, en fait. La Chine, on a parlé de l'Asie dans une émission récente. La Chine, l'Inde, le Japon aussi.
Des fusées longue marche.
Voilà.
Des fusées longue marche, donc parce que c'est un mot qui résonne bien. Le Japon, je n'ai pas en tête les noms de lanceurs, mais le Japon lance.
Ce ne sont pas des lancements anecdotiques, je veux dire. Ah, c'est pas anecdotique. Dans les 87, ils sont très présents.
Ah oui. Non. D'accord. Ce sont des lanceurs qui sont très performants. Donc, alors dans l'échelle des lanceurs, hein, je veux dire, du plus gros au plus petit, donc, ben, on pourrait faire tout un panel.
Alors, tout à fait, dans les plus modestes, on va dire, ou les plus récents, on peut noter aussi des pays comme l'Iran.
L'Iran qui a fait un tir, oui. Donc, c'est plus du vol suborbital pour l'instant. Voilà, mais l'Iran cherche. Il y a des pays qui sont, comme l'Argentine, cherche le Brésil. Voilà, donc il y aura de la concurrence dans les années à venir.
Donc, il y a de beaux lanceurs et de beaux lancements en perspective. Ouais. Bilan des lancements dans l'espace en 2015. Jean-Michel, qu'est-ce qu'on a lancé finalement? Quel type de satellite? Pourquoi faire?
Alors là, c'est tout ce qui tourne autour de nos têtes, et beaucoup de choses dont on a déjà redit et répété. Donc il y a les satellites d'observation. L'observation, on surveille notre planète. Bon, il y a eu la COP21, là, il n'y a pas longtemps, on a beaucoup parlé du climat, donc il y a des satellites qui passent leur temps à surveiller la fonte des glaces.
Voilà, tout ce qui peut être géo-économique. Et puis voilà. On peut aussi peut-être parler des militaires dans cette affaire aussi,
oui,
ils sont pas très
donc
loin,
les
ils
militaires,
observent aussi.
On sait leur nom, Athéna Fidus, Syracuse, donc ça c'est la France, hein. Mais bon, cela, on sait quand on a lancé un satellite militaire, on sait son orbite, on sait exactement où il est, mais ce qu'il fait, les données qu'il a, bon, ça c'est top secret.
Alors il y a les télécoms, l'Europe aussi est très active, notamment sur son projet GPS européen.
Alors le GPS européen, donc ça c'est le Galileo, le satellite Galileo, on en a lancé deux la semaine, fin décembre, là. Donc, on est à 12 satellites maintenant, mais pour que notre programme soit bien efficace, il en faut au moins 24. Et la flotte complète s'est portée à 30 satellites. Donc, il restera encore du temps. Mais on peut espérer que fin 2017, le GPS européen serait en circulation.
Donc, Galileo, c'est le GPS européen qui se
substituera. Voilà, on rappelle qu'il y a le GPS américain, le Global Position System, le GLONASS russe et puis le Galileo européen.
Alors, il y a aussi des satellites qui sont partis, des lancements qui ont eu pour objectif de servir la connaissance astronomique. Et là, on en a quelques sondes parties il y a très longtemps qui sont arrivées ou d'autres qui sont parties en 2015.
Voilà, donc c'est vrai qu'on lance quelque chose, on en parle beaucoup. Et puis après, on l'oublie, hein, parce qu'il va se passer du temps. Si c'est un satellite qui va travailler relativement proche de notre Terre, dans les banlieues, on va dire, de notre Terre, qui va observer, qui va nous apporter des données rapidement, on va en parler. Mais par exemple, bon, souvenez-vous, le 14 juillet, la sonde New Horizon, qui a mis 9 ans pour partir sur Pluton, elle était partie, on n'en a plus parlé, puis 9 ans après, pof, les télévisions, tout le monde se penche un petit peu sur New Horizon.
Alors on a eu aussi Rosetta qui a
on
fait
a eu Rosetta,
la vedette.
Rosetta, juste un petit mot sur Rosetta, puisque le contact avec le petit robot Philae est pratiquement perdu. On a eu deux petits bips, hein, contrairement à ce qui a été annoncé sur une chaîne de télévision. On a deux petits bips, mais bon, le programme sera arrêté de toute façon en septembre 2016. Et donc la sonde se posera sur la comète. Voilà, c'est la fin du programme.
Alors il y a une sonde également, la sonde Dawn, qui est arrivée sur Cérès.
Sur Cérès, hein, la petite planète, mini-planète Cérès, qui est en orbite autour. Il y a des petits points blancs mystérieux sur Cérès, donc cette sonde va nous apporter des choses. Et vous m'avez parlé de Gaïa. Alors
voilà,
Gaïa.
Bien sûr, hein, on finit Gaïa, par Gaïa.
Gaïa, il faut en parler parce que c'est pour l'astronomie. Hein, rappelons que nous, au Club Orion, donc on observe les étoiles, quelle est leur couleur, quelle est leur taille. Donc on regarde ça, tout ça très près. Et Gaïa va nous apporter beaucoup. Alors, dans les années 90, on avait lancé un satellite qui s'appelle Hipparcos, qui a cartographié un petit peu notre ciel, notre Voie lactée.
Notre Voie lactée, hein, oui.
Qui nous a apporté beaucoup de choses, d'une connaissance d'étoiles, puisqu'il y a toujours des étoiles qui s'appellent HIP, donc, avec un chiffre derrière, donc ça veut dire Hipparcos, c'est Hipparcos qui avait fait ce catalogue. Alors, Gaïa est parti il y a 2 ans. Il est sur un des points de Lagrange, donc il surveille notre Voie lactée. Hein, il scanne journellement notre Voie lactée. C'est un très haut scanner, on va dire, très loin. Et qui a actuellement a plus de 350 milliards de données enregistrées. C'est énorme. Voilà. Après, il faut les dépouiller. Mais lorsque le premier catalogue va paraître, on part vers juin 2016. Pour les astronomes, ça sera important, puisqu'on va voir, on va pouvoir comparer avec Hipparcos.
De nouvelles lunettes, en tout cas, pour les astronomes.
Voilà.
Même pour les amateurs comme
et des informations sur les étoiles, sur leur densité, leur couleur, etc.
Alors, finalement, on peut dire que 2015 a été un bon cru, un grand cru. On peut dire ça en termes de lancement, de conquête spatiale. Grosse animation.
Un bon cru, et puis on ne parle pas du coût. Du coup, je peux vous donner sur les agences les coûts, les différentes. Hein, c'est les USA qui sont le poids lourd avec 2,7 milliards de dollars. Hein, on va parler en dollars.
Oui,
hein, voilà.
Oui.
L'ESA, c'est 1,5. La Russie, 1,3. La Chine, 800. Le Japon, 500. Et l'Inde, 130.
Voilà,
donc vous voyez beaucoup de milliards de dollars qui sont partis dans l'espace pour surveiller notre planète, pour nous apporter des services au quotidien, et c'est ça qui tourne.
Donc la Terre s'occupe effectivement de l'espace, hein, puisque on voit bien que tous les pays s'y mettent quand ils le peuvent. Et 2016 s'annonce...
En 2016, grand cru, hein, donc pour l'ESA, bon, déjà on a la suite de Galiléo, hein, ensuite donc on a des projets avec les Russes pour aller sur Mars, des missions ExoMars. Les Américains, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eux, ils cherchent un petit peu à aller voir est-ce qu'on pourrait capturer un astéroïde. Hein, c'est un projet à long terme. On reparlera de Mars, hein, parce que Mars n'est pas oublié, Mars est dans les cartons, mais avant que l'homme aille sur Mars... c'est pas tout à fait pour 2016.
Voilà, que de beaux sujets pour les futures émissions Orion, chemin de l'espace sur RCF. Eh bien, bonne année à tous. Et n'oubliez pas que la Haute-Loire, c'est beau aussi la nuit.
Exactement.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcan. Décollage.